Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaires, militaires ou simples citoyens, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays.
Philippe Pétain, période de l'occupation.
Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipiteriez la patrie dans les pires malheurs.
Ces mauvais Français fustigés par Pétain, c'étaient les résistants. Et l'essentiel de la résistance française fut massivement et très tôt une résistance populaire, essentiellement communiste, menée par des ouvriers, parfois syndicalistes. La résistance, il va aujourd'hui en être question, mais on ne va pas parler que de ça, puisque nous allons évoquer les luttes ouvrières et syndicales en France, de 1789 à nos jours, et ce grâce à un outil exceptionnel qui s'appelle le Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, consultable sur internet sur metron.fr, M-A-I-T-R-O-N.fr. Le Métron, c'est un ensemble de 250 000 fiches retraçant les vies de figures des mouvements ouvriers et syndicaux en France. On en parle aujourd'hui pendant une heure avec Jean-Paul, ancien technicien physicien dans le pétrole, syndicaliste et aujourd'hui correspondant du Métron. Et puis Jean-Paul, c'est aussi un copain d'enfance de notre ami André, le prof d'histoire géo, qui va aussi nous accompagner. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, spécial Métron. Quand il est question de mouvement ouvrier dans cette émission, il y a évidemment des chansons fétiches qui ressortent. Et la dernière fois que vous avez ici entendu le temps des cerises, c'était lors de notre série d'émissions sur la Commune de Paris.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles, tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
La meilleure version qui soit du temps des cerises est à mon avis celle du grand Charles Trenet. Avant de retrouver nos amis Jean-Paul et André pour parler du Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Salut André.
Bonjour à tous.
Salut Jean-Paul.
Bonjour.
André, copain d'enfance, Jean-Paul.
Oui, on a usé nos fonds de culottes au collège d'enseignement général de Notre-Dame de Gravenchon, ensemble. On s'est quasiment pu quitter, parce que même lorsqu'il était à l'IUT et moi j'étais à la fac, on se voyait très fréquemment. On a fait plein de choses ensemble, donc c'est mon plus vieux copain.
Jean-Paul, alors qu'André s'est lui orienté vers l'enseignement, quelle voie as-tu choisi ?
Après mon bachot, j'ai fait l'IUT. Et je suis devenu physicien, technicien physicien, tout préparé pour entrer dans l'industrie. J'ai trouvé de l'embauche chez Esso, multinationale, qui maintenant s'appelle ExxonMobil. Je faisais de la recherche appliquée dans un laboratoire au service de la compagnie Esso.
Tu as travaillé dans les pétroles. Camille Lécole, le père d'André, a aussi travaillé là-dedans.
Oui, absolument. Oui, oui. Et mon père aussi travaillait là-dedans. C'est la raison pour laquelle on se trouvait dans la même cité, on va dire cité ouvrière, de Notre-Dame de Gravenchon. Très rapidement, j'ai pris des responsabilités syndicales. Parce que politiquement, dès que j'étais dans mes études supérieures, dès 68, je me sentais très proche des communistes.
Syndicalisme à la CGT ?
Oui, je suis allé à la CGT, j'étais engagé dans le syndicat et progressivement, je me suis trouvé à la tête du syndicat en France.
Est-ce que tu as travaillé chez Esso du temps où Camille Lécole, le père d'André, y était syndicaliste ou est-ce qu'il était déjà en retraite à l'époque ?
Il était en retraite quasiment quand j'ai été embauché. J'ai rencontré, donc du coup, tout un tas de gens qui l'avaient connu dans l'entreprise. Il avait une très forte réputation et puis je le connaissais personnellement parce que j'étais souvent chez André, j'entendais le patriarche parler.
Jean-Paul, on est aujourd'hui réunis autour de ce micro pour parler d'un outil extraordinaire. J'ai tanné André pour qu'il rédige la fiche du métron de son père, Camille Lécole, donc qui est rentré dans cette espèce de dictionnaire. T'as fait ça quand, André ? En 2020, 2019, par là ?
En 2019, oui.
C'est un peu moi qui t'ai tanné quand même.
Oui, c'est vrai, et Jean-Paul aussi, ils m'ont dit, mais comment ça se fait que ton père, avec son passé de militant syndical et politique, il est pas dans le dictionnaire du mouvement ouvrier et socialiste, etc. Il y a sans doute des gens qui y figurent et qui ne sont pas plus hauts en couleur et plus caractéristiques que mon père. Je pense qu'effectivement, il est un des monuments, ils sont très nombreux, du mouvement ouvrier. Il méritait d'être dans le métron, c'est sûr. Et c'était un plus par paresse ou par discrétion que j'ai rien fait à cet égard. Il faut dire qu'il fuyait les distinctions, il fuyait la notoriété, mon père. On lui a proposé plusieurs fois la Légion d'honneur, comme ancien résistant, etc. Il l'a toujours décliné, il n'a jamais accepté la Légion d'honneur. On lui a proposé à Nevers, parce qu'il était résistant dans la région de Nevers. Bon, et il a toujours refusé, il a dit non, je ne veux pas partager la Légion d'honneur avec Mistinguette et Maurice Chevalier, quoi.
Jean-Paul, le métron, M-A-I-T-R-O-N, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça s'appelle comme ça ?
D'abord, c'est un dictionnaire biographique du mouvement ouvrier au départ, généré par un monsieur qui s'appelait Jean Métron, né en 1910, qui a été professeur, mais également un militant avant-guerre, pendant la guerre et après-guerre. Et en même temps, il a eu cette idée, vers 1940, de commencer à écrire des biographies du mouvement ouvrier. Alors c'est vaste. Dans sa conception, le mouvement ouvrier, ça comprend toutes les tendances du mouvement ouvrier, donc les anarchistes, la Seconde Internationale, la SFIO par exemple, bon voilà, la Troisième Internationale avec les communistes. Et donc c'est très ouvert, et donc progressivement, ça s'est étendu à une autre notion que la notion ouvrière. Ça comprenait tous les syndicats, y compris les syndicats d'enseignants.
Il était militant où, ce monsieur Métron ?
Il est né dans la Nièvre. Ses parents étaient communistes. Au départ, il a été vraiment communiste. Il a adhéré à l'équivalent de l'UEC quand il était étudiant. L'UEC, à l'Union des étudiants communistes, l'équivalent des étudiants, ça s'appelait autrement à cette époque-là. Il a fait ses études à Paris. Il est allé à Louis-le-Grand. Et donc c'est quelqu'un qui a d'abord été instituteur, puis après il est rentré dans le secondaire et progressivement il s'est retrouvé maître de conférence à la Sorbonne. Donc son projet lui tenait à cœur. Là, on est dans les années 55 à peu près, 58. Il avait déjà commencé à lancer ce dictionnaire donc biographique du mouvement ouvrier. Il avait commencé à beaucoup travailler là-dessus. Le démarrage de l'expérience, c'est à peu près 1955-58. Je dois ajouter aussi qu'il est rentré au CNRS. Il a été détaché de l'éducation nationale au CNRS. Là, il a pu mettre au point, démarrer vraiment cette expérience. Il est au Parti communiste avant-guerre, mais avec certains doutes. Hein. Il discute un petit peu la ligne, etc. Il n'est pas toujours d'accord avec tout. Il flirte avec les trotskistes. Il a été aussi un peu trotskiste, trotskisant. Il retourne au Parti communiste avant la guerre. Et ce qui est un événement très important pour lui, c'est le pacte. Le pacte fait qu'il prend ses distances directement, ça le choque, ça le traumatise.
En 1939, les nazis proposent un pacte de non-agression aux soviétiques qui l'acceptent. Les années précédentes, les soviétiques ont vainement tenté d'activer une alliance avec la France et l'Angleterre pour prendre l'Allemagne du Troisième Reich en étau. Mais les dirigeants français et britanniques ne veulent surtout pas s'allier à l'URSS. Pire, en 1938, un an avant le pacte germano-soviétique de 1939, France et Royaume-Uni signent un pacte de non-agression avec Hitler. Ce sont les accords de Munich qui prévoient aussi la trahison et l'abandon aux nazis de la République tchécoslovaque, pourtant alliée de la France et de l'Angleterre. Si le pacte germano-soviétique est une réponse du berger à la bergère, il passe parfois très mal auprès de nombreux militants communistes de base, déconcertés, qui ne savent pourtant que trop bien que les fascistes sont leurs pires ennemis. Retour sur l'histoire du Métron. Jean Métron imagine son dictionnaire biographique vers 1940, mais ne s'y attellera vraiment qu'après-guerre.
C'est dans les années 50 qu'il y a un démarrage véritablement de cette expérience-là. Alors, on intègre l'ensemble du mouvement ouvrier en étant très large. Hein. Et puis, surtout, ce qui est remarquable dans le Métron, c'est qu'on s'intéresse à ceux qui sont célèbres dans le mouvement ouvrier, qui ont joué un rôle très important, mais on s'intéresse aussi aux petits et aux sans-grades. Le tout est mélangé. De simples artisans qui ont été militants pendant un certain temps, dans toutes les périodes, hein, ils vont avoir droit à leur biographie. Quelquefois, il y a peu de choses à dire, parce que bon, ils ont occupé un poste syndical ou autre. Quelquefois, c'est beaucoup plus riche, parce que on a des témoignages oraux, des gens qui ont connu ces gens-là, et qui peuvent en parler un peu plus, donner plus de détails sur leur vie. Alors bon, les notices biographiques sont des descriptions d'une vie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'humain, quoi. On voit la description d'une vie, l'itinéraire de la personne, quelquefois qui peut être très tortueux, qui peut quelquefois mener au pire. On voit des gens qui sont très convaincus d'aider la classe ouvrière, hein, et puis, progressivement, qui virent, quoi. Ils deviennent des traîtres, en quelque sorte.
André. Ce parti pris de faire des notices sur tous les gens qui ont approché, qui ont participé, qui ont été actifs dans le mouvement ouvrier, syndicaliste, socialiste, etc., c'est très intéressant pour le chercheur, pour l'historien. Parce que, par exemple, sur la période de l'occupation, une partie du mouvement syndical a collaboré très activement. Et bien, ces gens-là sont dans le Métron. Parce qu'ils font partie de l'histoire du mouvement ouvrier, y compris dans ses errements, y compris dans ses erreurs, mais ils font partie du mouvement ouvrier. Et pour l'historien, c'est un instrument unique. C'est unique. Le Métron, il n'existe, à mon avis, pas d'équivalent dans d'autres domaines de la vie sociale ou politique d'un dictionnaire biographique aussi complet, quoi. C'est fort formidable. C'est un travail de fond. C'est une véritable étude complète à une époque donnée, etc. On a tous les renseignements. Et quand on veut travailler, ben, je crois que c'est un instrument irremplaçable.
Alors là, au moment où on se parle, on est début 2022. Il y a combien d'entrées dans ce Métron, là, aujourd'hui?
À l'heure actuelle, 250 000. 250 000 vies, existences. Ça, c'est formidable.
Depuis quand?
Ça couvre 1789 jusqu'à nos jours. C'est tous les syndicalistes possibles, tous les membres de partis, d'organisations de gauche, en gros, qui s'y trouvent. Voilà. Jean Métron, au début, il travaillait tout seul. Hein. Très rapidement, plein de gens sont venus à son secours, on peut le dire ça. Évidemment, une institution comme le CNRS, ça l'a aidé. Hein. Mais les professeurs d'histoire, ils sont arrivés nombreux. Et puis également les militants comme moi, qui étaient volontaires, sont venus enrichir le Métron comme ça au cours des années. On compte que depuis 1955, environ 1 000 000 de personnes ont participé à la confection de ce Métron. À l'heure actuelle, on doit être certainement une centaine de gens actifs qui fournissent au Métron, quoi.
Est-ce que n'importe qui peut proposer une fiche au Métron ou...
Non, je crois qu'il faut quand même s'adresser à des correspondants du Métron, comme je suis. Hein. Dans mon cas, j'ai rédigé environ 250 biographies sur le Métron. 250 sur 250 000.
Bon, tu trouves le parcours de vie de quelqu'un, tu rédiges, et est-ce qu'il y a un bureau qui étudie l'affiche, voir si c'est rigoureux?
Oui, il y a quand même un certain contrôle, on fait une validation, il y a des gens qui sont un peu plus responsables que les autres, qui valident les notices, mais bon, jamais aucune biographie n'est éliminée, il faut qu'elle respecte un certain nombre de formes pour qu'elle se ressemble un petit peu. Des LEA, des CDA, ça doit commencer par ça. Voilà. Il n'y a pas un contrôle trop sévère. Alors maintenant, l'une des principales sources se trouve dans un service public qui sont les archives nationales. Les archives nationales et les archives départementales où on trouve énormément d'éléments qui nous permettent de rédiger des notices. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Comment trouve-t-on des renseignements? Ben, quelquefois, on les trouve dans les archives de la police, dans certains cas.
Ça se consulte facilement?
Alors, les archives de la police, on en trouve pas mal, justement, aux archives départementales. Pour ce qui est de la résistance, par exemple, où pas mal de gens ont été emprisonnés pour fait de résistance. On a quand même beaucoup de possibilités de rassembler des renseignements. Alors, une autre possibilité, c'est les archives de Moscou, du Comintern, où étaient envoyées les diverses biographies, autobiographies des militants qui devaient devenir cadres, notamment avant la guerre, où ils donnaient tout un tas de renseignements sur eux. Et ces renseignements, ils étaient transmis par la valise diplomatique à Moscou. Donc on a récupéré ces archives de Moscou qui nous renseignent énormément sur, par exemple, sur les fusillés. J'ai travaillé sur les fusillés. Bon, en général, c'était des résistants donc communistes. Et on trouvait beaucoup de renseignements sur eux. Également des renseignements sur les brigadistes d'Espagne. Ils étaient fichés à Moscou. Il y avait une liste qu'on a retrouvée de ces militants-là, de ces brigadistes en Espagne.
Ce travail sur le Métron, il se passe dans un cadre associatif?
Oui, oui, c'est une association qui est déclarée d'intérêt public. Voilà. Alors longtemps, le Métron n'était pas gratuit, il était papier. Donc, il était réservé à des institutions, à la fac de lettres, par exemple, ou bien à une grosse mairie ou à un grand comité d'entreprise, parce que c'était cher. Et depuis à peu près 4-5 ans, c'est public et gratuit.
Consultable en ligne. Oui. Métron.fr, hein, M-A-I-T-R-O-N.fr.
Oui,
petite loupe, et on peut taper le nom de quelqu'un et trouver sa fiche, s'il est dedans, évidemment.
Oui, oui. Là, ce que je voudrais dire, c'est que quand on cherche quelqu'un, souvent on trouve quelqu'un d'autre. Mais surtout, c'est le début d'un voyage. Ça, je tiens à le dire, c'est le début d'un voyage immobile, un voyage dans le temps et un voyage dans l'espace, autour du monde. Par exemple, il y a beaucoup de militants qui ont participé à la guerre d'Espagne, par exemple, ou qui se sont retrouvés en Russie ou des choses comme ça. C'est vraiment un voyage. Ce qu'il y a surtout, c'est que autrefois, c'est un dictionnaire papier, un très très long dictionnaire, très épais, et on ne pouvait pas corriger les erreurs qu'on faisait, parce que des erreurs, on en fait toujours.
C'est comme Wikipédia.
Oui, c'est ça. Oui, attention, je ne voudrais pas qu'on le compare à Wikipédia parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Wikipédia.
Pas très fiable en matière d'histoire, Wikipédia. Hein. Pour la botanique, c'est très bien, mais alors en histoire, c'est très douteux souvent, Wikipédia.
Voilà, il y a beaucoup de clichés.
Dans Wikipédia, nombre de fiches sont verrouillées par des fachos qui travaillent en meute sur des fiches. Et si quelqu'un s'avise de vouloir en corriger une, t'as trois fachos qui te tombent dessus et un soi-disant, je sais pas quoi, régulateur, qui est en général ignare, qui te dit que t'es mal poli quand le ton commence à monter. Enfin bon, moi, ce que j'ai pu observer dans Wikipédia, c'est que nombre de rédacteurs de fiches se comportent comme ce qu'ils font semblant de critiquer, c'est-à-dire des historiens staliniens qui font disparaître les gens des photos, comme on faisait sous Mao ou sous Staline, à part que ça se passe sous l'étendard libertarien.
Avec le numérique, c'est quand même formidable. Vous pouvez rentrer dans le métro, pas seulement avec un nom suivi d'un prénom, vous pouvez rentrer dans le métro en tapant le nom d'un petit bled où vous avez vécu ou que vous traversez. Et là, si vous voyez par exemple qu'il y a une usine dans cet endroit-là, tu vois, en tapant le nom du village, on voit qu'il y avait plein de militants. Il y a aussi, ce qui est bien, c'est le lien hypertexte. Alors ça, c'est extrêmement pratique parce que une personne avait des liens avec d'autres personnes qui ont aussi leur nom dans le métron, et donc un lien hypertexte vous envoie ailleurs, tout à fait ailleurs, bien souvent, bien souvent.
On va maintenant faire une pause musicale au cœur de cette spéciale Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Et qui dit mouvement ouvrier dit temps des cerises, dont voici une autre version aux paroles modifiées. Du temps des cerises, on est passé au beau temps des crises.
Vous regretterez le beau temps des crises, quand pauvre sans pain et riche gavé, nous serons aux prises. Les drapeaux de Mars flotteront aux brises, les drapeaux vermeils sur qui vous bavez. Vous regretterez le beau temps des crises, quand viendra le peuple en haut des pavés. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, le vil renégat et l'accapareur en verront de grise. Les politiciens auront des surprises, les Judas au ventre auront la terreur. Quand vous pleurerez le beau temps des crises, grondera partout la rue en fureur. Profitez-en bien du beau temps des crises, où le peuple jeûne et pense en rêvant aux terres promises. Quand on viendra-tu fondre les banquises? Ô grand soleil rouge, ô soleil levant. Profitez-en bien du beau temps des crises, où le peuple veille et s'en va rêvant.
Si concerne ton parcours, Jean-Paul, avec le métron, comment ça a commencé?
Ça commence avec ma vie de militant. C'était pas tous les jours marrant d'être un militant dans une société américaine en diable et d'être à la tête de la CGT. J'ai connu l'adversité, hein, dans une certaine mesure.
Tu disais que ton père était gaulliste. Comment tu t'es retrouvé à basculer chez les Rouges?
Peut-être que André Lécole a peut-être joué un rôle assez important.
Ah, ça m'étonnerait pas.
Mais enfin, il faut pas trop lui dire parce que...
Non, moi je pense que c'est en situation que les gens évoluent. Tu peux faire tous les discours que tu veux, si les gens ne sont pas engagés dans un rapport de lutte de classe, etc., et de lutte syndicale sérieuse, ils ne sont pas obligés de comprendre grand-chose à ce qui leur arrive. Et on le voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, les gens éloignés de ces luttes syndicales, des enjeux, etc., comprennent pas grand-chose, ou bon, ils sont aliénés, quoi, en quelque sorte. La prise de conscience, elle se passe en situation. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui, t'as une multitude de jeunes qui sont dans des petites boîtes de services, de livraison, de trucs comme ça, chez Decathlon ou chez des... Ils prennent conscience de ce que c'est que la conscience de classe leur vient. Pas toujours, mais c'est là que ça leur vient, la conscience de classe. Pas quand ils sont en galère, quand ils sont dans la rue comme ça. Là, ils sont mécontents, mais ils n'ont pas la conscience de classe. La conscience de ce qu'on est, de ses intérêts et de ses ennemis de classe, etc., ça vient quand on est exploité, quoi. Lorsqu'on est exploité, on ne prend pas forcément conscience des conditions de son exploitation, un truc comme ça, mais c'est là où on a le plus de chances de prendre conscience, à mon avis.
Tu te reconnais là-dedans, Jean-Paul ?
Oui. Nous vivions dans une cité directement liée à l'usine. C'est pas une usine, c'est un empire, hein, une raffinerie. C'est vaste.
Complexe pétrochimique.
Dans ce contexte-là, on a beau avoir des parents catholiques, c'est un contexte où il y a plein d'ouvriers dans la cité. Dès que je suis un enfant, il y a des choses qui sont naturelles, qu'on voit. C'est l'existence d'un fort syndicat. Alors, cette usine est occupée en 68, et puis moi je suis au lycée, en terminale, au lycée technique, au Havre. Il n'y avait pas d'occupation du lycée, mais donc je me retrouve chez mes parents, dans la cité. Et à l'heure de midi, près de l'entreprise, il y a la cantine. Elle est ouverte à tous. Il y a un meeting tous les jours parce qu'il y a négociation. Les divers syndicats interviennent devant une assemblée générale des salariés en grève. Ça me prépare déjà à rentrer dans l'industrie parce que 2 ans après, j'ai ma formation à l'IUT, c'est pas très long. Voilà. Quand je deviens syndicaliste, quand je rentre vraiment dans l'entreprise que je suis employé, je pense beaucoup à l'histoire. C'est ce qui m'anime. Et souvent, avec certains de mes camarades, on se fait la réflexion. On se dit, disons, pourquoi on agit ? Ce qu'on a en tête, c'est simple. C'est la Commune de Paris, c'est la Résistance, c'est 1945. Ça, là-dessus, on était assez clair, je crois, dans mon syndicat. Et donc, moi, j'étais très attiré par l'histoire, parce qu'au fond, j'ai raté ma vocation. Lui, André, il est parti dans la direction de l'histoire. Il a fait des études à la fac, etc. Et puis moi, je me suis destiné à l'industrie. Mais c'était pas pour le pire, parce que ça me permettait de devenir un militant, de participer à la construction de l'histoire sociale du pays, de poser ma petite brique.
Alors quel est ton premier contact avec le Métron, la première fois que tu en entends parler ?
C'est grâce à Internet. Des copains à moi de la CGT, lorsque j'étais sur le point de partir en retraite, c'était en 2007... Je m'intéressais à l'histoire sociale, ils le savaient. Alors ils me disent, ben écoute, histoire sociale, on va taper histoire sociale sur Internet. Ils sont tombés sur le Métron et tout l'édifice qui entoure le Métron. Hein. Donc j'ai pris contact et puis bon, je convenais quoi. Puisque que recherche le Métron ? Des spécialistes en histoire contemporaine et des militants. C'est quelque chose de formidable, cette rencontre entre tous ces gens-là. Et ça me convient beaucoup. Alors, il y a aussi quelque chose qui me convient, c'est une certaine pluralité d'approche. Parce que il y a toutes sortes de militants. Tous les syndicats sont là. Eux ont une démarche à peu près équivalente à la mienne. Et je suis assez attaché à un esprit d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est ce qui manque le plus. L'éducation populaire, c'est ce que je pratiquais dans les MJC, dans les maisons de jeunes et de la culture, les maisons pour tous, où j'ai pas mal milité. Hein. Dans le Métron, j'ai retrouvé un peu cet esprit, justement, pluriel, avec des historiens et des militants qui ont leur point de vue, que peut-être je ne vais pas apprécier, mais on sait d'où ils viennent. C'est ça l'essentiel pour un historien, savoir d'où il vient. Après, on peut le lire. On peut le lire avec toute la distance. Et c'est un peu la même chose pour les militants qui participent, les anciens militants qui participent au Métron. Bon, on sait leur couleur. Bon, bah, on se tolère mutuellement. Quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a une formation syndicale ou politique qui serait dominante ?
Oui, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose qui attire plus particulièrement une tendance. Mais il est certain qu'un parti comme le Parti communiste a joué un rôle avec la CGT, a joué un rôle extrêmement important pendant des dizaines d'années. Et donc, on retrouve effectivement beaucoup de militants de la CGT et des gens qui sont passés au Parti communiste, hein, qui n'y sont pas toujours ou qui y sont encore.
Est-ce que le métron ne concerne que des militants ou des syndicalistes français ou ayant travaillé ou milité sur le sol de France?
Oui, on peut dire ça, c'est quand même le mouvement ouvrier français. Donc tout ça, ça s'est transformé en mouvement, le mouvement social, hein, pour être plus général. Alors il s'agit des gens qui opéraient en France ou qui ont un rapport avec la France, parce que il y a eu aussi beaucoup d'étrangers, par exemple de l'international, du Comintern, qui étaient en France et qui venaient de pays étrangers. Alors, le métron multiplie des dictionnaires, dictionnaires des anarchistes, dictionnaires des brigadistes en Espagne, dictionnaires des fusillés, ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé là. Également, des dictionnaires concernant des métiers importants comme les gaziers électriciens, les cheminots. Hein, bon.
Paul, pourquoi as-tu particulièrement travaillé sur les fiches des fusillés? Quand on dit fusillés, ça veut dire fusillés par les nazis pendant l'occupation.
Des fusillés pendant l'occupation de 1940 à 1944. Dans mon bureau syndical, j'avais sur le mur un fusillé de ma compagnie. Hein. C'était Henri Messager qui a été fusillé au Mont-Valérien avec son beau-frère Georges Loison. Henri Messager était le secrétaire du syndicat de Notre-Dame de Gravenchon, de Esso. Esso et Mobile, d'ailleurs. Et c'était la photo dans mon bureau. Donc j'avais toujours à l'esprit ces gens-là qui m'avaient précédé, en quelque sorte, qui avaient dirigé mon syndicat avant la guerre, qui avaient été licenciés bien souvent en 1938, qui est la revanche de 1936. Le 30 novembre 1938 a été une revanche terrible.
Les lois scélérates des décrets-lois d'Aladier, interdisant et bannissant et embastillant les communistes et interdisant l'humanité.
Donc je m'étais promis de faire quelque chose sur le sujet des fusillés pendant l'occupation. Donc je me suis rendu en 2007 aux journées du métron. À ces journées du métron, il y avait une personne qui s'appelait Jean-Pierre Besse, professeur agrégé, un docteur en histoire, et qui entreprenait, pour le métron, de compter le nombre de fusillés. Alors, c'était l'une des tâches, une sorte de recensement des gens qui avaient été fusillés. Alors, dans un premier temps, avec jugement d'un tribunal d'exception allemand, tribunal militaire allemand, entre guillemets, en bonne et due forme. C'est pas des gens qui ont été massacrés comme ça sur le bord de la route. Non, ce sont des gens qui ont été jugés et fusillés en France, dans tout le pays. Et donc, on avait un doute parce qu'on a grossi le nombre de fusillés pendant l'occupation. Parce que si on ajoute aux fusillés les gens qui ont été déportés et qui sont morts dans les camps, ça fait déjà un nombre au moins double de martyrs, en quelque sorte.
Après-guerre, le PCF se présentait comme le parti des 75 000 fusillés. C'était de la propagande.
Oui, oui, ça grossissait le trait. Bon, il y avait tout un tas de raisons, y compris électorales. Hein. Il faut le remettre dans son contexte. Hein. Donc, il y a des rapports de force politiques après la guerre. Et donc, il n'est pas faux de dire que les communistes ont été les premiers à être massacré, c'est le plus gros pourcentage, c'est clair. Et justement, cette démarche dans le métron a permis de développer un dictionnaire des fusillés où l'on voit, on connaît les tendances des gens qui ont été fusillés par des tribunaux allemands à la suite de jugements de tribunaux allemands. On arrive à peu près à 10 000 fusillés, la majorité est communiste. C'est ça le résultat. Mais évidemment, le nombre de fusillés n'est pas celui qui avait été annoncé. Ça donne des notices passionnantes.
T'en as pas rédigé 10 000 quand même de fiches, de fusillés.
J'en ai rédigé à peu près 200 sur la Seine-Maritime et l'Eure. On pouvait être fusillé à Rouen, par exemple. On pouvait être fusillé au Mont-Valérien. Henri Messager, lui, a été fusillé donc au Mont-Valérien avec son beau-frère, mais pas à la même date. Ce qui est pratique, en quelque sorte, c'est que quand vous avez été fusillé, c'est un événement qu'on peut difficilement effacer.
S'il est passé par les soi-disant tribunaux d'exception allemand.
Oui, oui, oui.
Parce que ça génère de la paperasse toujours, ces trucs-là.
Oui, oui, exactement, exactement. Bon, il y a aussi, après la guerre, on honore ces gens-là. Ils sont l'honneur de la France, hein. On a quand même beaucoup de documents, ils ne sont pas oubliés comme certains autres, qui n'ont pas été fusillés justement comme certains résistants, qui sont restés complètement anonymes, voilà, et qui ont pu faire des choses extraordinaires. On retrouve ces listes de fusillés facilement dans les archives départementales, parce que les listes sont tenues. Donc ces gens-là, on les retrouve aussi parce qu'ils passent par la police. Ils étaient fichés, ils étaient sous le microscope de la police dès les années 20, dès la naissance du Parti communiste. Hein. Voilà. Donc, on trouve pas mal de documents. Certainement que des documents ont été détruits, hein, mais pas autant que ce qu'on pense. Les archives révèlent quand même pas mal de choses. Et alors, bon, il y a aussi autre chose. C'est le domaine humain de la chose, c'est qu'on peut rencontrer les enfants de ces gens-là, qui maintenant sont des personnes âgées. Comme j'ai commencé il y a 15 ans, il en restait beaucoup. Des enfants de... Combien ? Ils avaient 70 ans à ce moment-là, 70, 80 ans. Là, les témoignages sont extrêmement intéressants et très enrichissants. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer les deux enfants d'Henri Messager. Tout ça concourait à un dictionnaire des fusillés. Donc là, on a pu rencontrer énormément de personnes de toute la France qui apportaient leur contribution. À chaque fois, c'est quand même saisissant de rencontrer les enfants des fusillés qui ont vécu vraiment une vie difficile. Après, c'était quand même très très dur.
Le père de famille, le soutien de famille disparaissait. C'est des milieux populaires. Il n'y a plus personne pour amener un salaire à la maison, etc. Donc les gens sont dans la misère, hein, souvent, plongés dans la misère. Et c'est une période affreuse pour ces gens-là. La disparition du père de famille, quoi. C'est quand même à l'époque que c'est le bonhomme qui ramenait le salaire à la maison, quoi. Ça a dû être extrêmement difficile.
Tu as beaucoup parlé d'Henri Messager. Est-ce que dans les 200 fiches que tu as traitées, Jean-Paul, ces 200 fiches de fusillés, est-ce qu'il y en a d'autres qui te tiennent particulièrement à cœur, qui t'ont ému ?
Ah bah oui, beaucoup. Beaucoup m'ont ému. Dans ma région, il y a André Piquant, qui était un instituteur, qui dirigeait le Parti communiste donc, de Seine-Inférieure à l'époque, et qui s'est pas mal illustré, et qui a fini par être fusillé au Mont-Valérien. Ces gens-là ont été pris dans les filets des brigades spéciales. Hein, des brigades spéciales 1 et 2, une organisation policière basée à Paris.
Française.
Et française, oui, oui. Et spécialisée dans la lutte antiterroriste, hein, entre guillemets. Ils étaient d'une grande habileté. C'était des spécialistes de la filature. Et André Piquant, qui était à Rouen, il a été repéré par des gens de la police. Il a été pris en filature et puis ça a déclenché tout un tas d'arrestations qui ont failli décapiter le centre, quoi, ce qu'on appelle le centre, c'est-à-dire la direction du parti clandestin.
André, tu nous as raconté dans cette émission, c'est ce qui est arrivé à ton père, Camille Lécole, filé et arrêté par la police française pour être livré aux Allemands.
Oui, c'était un commissaire de police de Moulins. Donc les groupes étaient constitués, c'était des groupes de sabotage. Et la police avait des noms, et ces noms, ils les avaient dans le fichier établi obligeamment par Daladier, les lois Daladier, etc. C'est les lois Daladier, elles ont fiché les étrangers et les communistes et la CGT. Voilà, c'était les trois cibles de ces fiches. Ces fiches ont été utilisées, elles étaient bien faites. Donc il suffisait d'avoir un nom et de rester en planque. Tu n'arrêtes pas le bonhomme, tu attends qu'il ait des contacts avec les uns et les autres. Ces groupes étaient organisés. Bon, il y avait parfois dans les villes, il y avait des triangles. Alors, c'était pas le cas dans la Nièvre. C'était un groupe sans organisation clandestine particulière, mais ils étaient clandestins quand même. Ils étaient planqués. Ensuite, après, une fois qu'ils ont tous les noms, là, ils planquent là où ils sont sûrs d'arrêter les types et ils arrêtent tout le monde. Donc mon père a été arrêté avec 6 copains. Hein. C'est son père. Et ils ne sont pas tous passés au tribunal à Nevers et ont tous été condamnés à des peines de prison plus ou moins longues, etc. Mais évidemment, on a vidé les prisons, puis on les a envoyés en Allemagne. Hein. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est d'abord la police et la justice française qui a réprimé ces mouvements-là. Hein. Personne d'autre, hein. C'est évident.
Dans un premier temps, on a sorti un dictionnaire papier qui comportait 10 000 fusillés à la suite d'un jugement de tribunal allemand. 10 000 fusillés. Mais après, ce qui reste, c'est les massacrés. Et les gens qui ont été fusillés sommairement. Voilà, les exécutions sommaires à l'été 44. Il y a eu beaucoup de... y compris les FFI.
Les forces françaises de l'intérieur.
Hein. Oui, qui peuvent avoir été massacrés. À l'heure actuelle, je compte les FFI. Ça grossit le nombre de fusillés, ça, avec les massacrés. Donc, on arrive à un nombre assez important que je ne saurais pas dire là tout de suite, parce que le travail n'est pas terminé. À l'heure actuelle, en tout cas, je m'intéresse aux gens des maquis. Donc, ça m'oblige à étudier tous les maquis, toutes les organisations dans l'Eure et la Seine-Maritime. Pour justement écrire les notices biographiques de chacun des gens qui ont été tués.
Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu.
La résistance des femmes ont joué un rôle aussi essentiel que celui des hommes. Et pourtant, la plupart de ces résistantes sont passées à la trappe de l'histoire et de la mémoire.
Oui, absolument. Elles sont restées dans l'ombre de leur mari ou de leur conjoint. On essaie d'y remédier pour la période de la résistance. On a eu tendance à oublier les femmes. On arrive à corriger le tir.
Bon, bah, c'est bien beau prendre le maquis. Enfin, qui sait qui les ravitaillait en nourriture? Les maquis, c'était souvent les femmes. André.
Oui, moi, je voudrais quand même ajouter une chose. On est dans le cas d'une famille homme, femme, enfant. Lorsque le mari participe à une activité de résistance, etc., risque sa peau, risque sa vie, etc., il est souhaitable qu'en cas de disparition du mari, il est pris, mis en prison, déporté ou fusillé, etc. Il faut bien que des gens s'occupent des enfants. La nécessité de s'occuper des enfants, de garder le foyer en quelque sorte et de pourvoir à la survie des enfants, obliger les femmes à un rôle plus effacé. C'était une sorte de nécessité admise par tous. C'est pas forcément le fait de mettre la femme dans l'ombre, etc., et de la laisser de côté pour faire réserver les choses glorieuses aux hommes. C'est aussi une nécessité matérielle. Les fusillés, c'est leur femme qui s'occupait des gosses après. Ça retombait sur elle. Il y a eu plein de femmes combattantes, mais relativement peu par rapport aux hommes. Dès qu'elles étaient mariées, avaient des enfants, en quelque sorte, elles avaient une responsabilité. Donc lorsqu'il y a des femmes, elles sont jeunes, elles ne sont pas mariées. En cas de pépin, il n'y a personne à garder après. Quoi.
Tu parles des situations de combat, mais aussi le fait d'être messagère, ou de planquer des gens chez soi, ou de tout simplement donner à bouffer à des gens qui passent.
Elles prenaient autant de risques que les hommes, c'est certain. Elles avaient autant de titres que les hommes à figurer sur les tableaux, etc., bien sûr, parce qu'elles se sont engagées, elles étaient actives, c'est évident. Mais quand même, malgré tout, il faut préserver quand même la vie. Et c'est la femme qui préserve la vie, quoi. C'est un rôle qui, dans la famille traditionnelle, est essentiel. C'est la grandeur aussi des femmes, d'assurer l'après, quoi. Hein.
Jean-Paul, les nazis ne fusillaient pas les femmes. Quand on les attrapait dans des activités de résistance, elles étaient déportées à Ravensbrück en général, ou décapitées. Mais comme les nazis avaient peur de ce qu'on appelle l'opinion publique, en France, quand elles étaient exécutées, c'était pas sur le territoire français. Ce qui fait que dans tes fiches de fusillés, il n'y a pas de femmes, par la force des choses.
Non, il n'y a pas de femmes jugées par un tribunal militaire. Non, c'était exclu. Et donc, les femmes qui ont pu être arrêtées pour activité de résistance pouvaient être condamnées à mort. Au préalable, elles étaient envoyées en Allemagne, dans une prison allemande, jugées en Allemagne. S'il y avait condamnation à mort, elles étaient décapitées.
Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez.
dire au métron, tu nous as sorti, Jean-Paul, une fiche de femme.
Germaine Pifto, c'était une institutrice à Fécamp. Elle était communiste, très jeune, hein, environ 25 ans. En septembre 39, elle distribue un papier condamnant à l'interdiction de l'humanité. Elle en prend pour un an de prison à partir de septembre 39.
Bon,
pour une distribution de tracts. Elle se trouve en prison à Évreux. Quand les Allemands sont arrivés, on a ouvert les prisons. Elle est à Évreux, à la prison d'Évreux, et donc les portes s'ouvrent. Et pour beaucoup de militants comme ça, ça s'est produit. Donc elle se retrouve en liberté, elle rentre dans la résistance, à Caen. Elle combat d'ailleurs aux côtés d'Henri Messager, dans le Parti communiste clandestin. Elle connaît cette vie clandestine vraiment terrible, dans l'humidité des hivers de Normandie. Voilà, elle se retrouve donc à Caen, dans l'organisation du Parti communiste clandestin. Avec elle se trouve un camarade qui est cheminot. Les cheminots de Caen vont organiser deux déraillements au même endroit, à 15 jours d'intervalle, sur des trains qui transportent des permissionnaires allemands. Au total, ça fait 40 morts. Donc elle se retrouve avec un gars qui s'appelait Renner. Ils forment un couple, en quelque sorte, pendant la guerre. En parallèle, il y a une affaire qui s'appelle l'affaire Désiré, un dirigeant de Seine-Maritime du Parti communiste, dont elle était proche. Et Georges Désiré est considéré, à tort, comme un traître. Il est liquidé par le parti. Et donc on considère que Georges Désiré étant un traître, ce qui est faux, elle est proche de Georges Désiré, elle se retrouve rejetée de la résistance communiste. Terminé. Donc ils se trouvent tous les deux. Lui, il a sur les bras cet attentat et la police aura vite fait de retrouver les auteurs de l'attentat qui a lieu près de Caen. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se tirent. Ils passent à Aix, hein. On est en 41. Il se sauve de ce truc-là parce que là, il y avait un double danger. Et dans le métron, il y a un professeur de Caen qui a écrit cette biographie qui s'arrête à cette période parce qu'on ne sait pas ce qu'elle était devenue. Moi, je soupirais après Germaine Pifto. Je me disais, où est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'elle n'a pas été tuée, etc. Bon, voilà. Et le temps passait et puis personne ne pouvait me répondre. Hein. Personne. Voilà-t-il pas que l'une de ses filles téléphone au métron pour dire, voilà, ma mère, elle est morte en 2002, quoi. C'est quelque chose d'assez émouvant quand les enfants des personnes auxquelles on s'intéresse viennent et puis vous fournissent tous les renseignements. Parce qu'après, elle a continué à vivre, elle a été responsable culturelle dans une municipalité rouge près de Paris. Après, elle a eu des dissensions avec le Parti communiste vers 68 à peu près. Voilà. Donc, j'ai eu contact avec ses quatre enfants. Et là, bon, c'est des moments assez formidables parce que l'un d'entre eux, le fils de Germaine Pifto, était metteur en scène de théâtre, qui m'a donné plein de détails.
Donc, je reviens après le déraillement, l'attentat. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, ils sont traqués par la police, rejetés du PC. Qu'est-ce qui lui arrive?
Bon, finalement, ils se débrouillent, quoi. Ils se débrouillent et puis ils se retrouvent du côté de Aix. Hein. Ils sont planqués, quoi. C'est ce qu'ils avaient de mieux à faire, à mon avis. Hein.
J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
J'ai connu l'histoire de la Fédération communiste de Seine-Maritime. Le Georges Désiré en question. Assez vite, le Parti communiste s'est aperçu que c'était pas un traître, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient exécuté un camarade qui n'était pas un traître. Il était accusé d'avoir donné ses camarades, parce que la direction de la Fédération de Rouen a été décapitée deux fois. Hein. Ils ont été pris, ils ont été liquidés, il a fallu reconstituer la direction départementale de Seine-Maritime, qui était très importante, hein, parce que Seine-Maritime, c'est un département très ouvrier et très marqué par le mouvement communiste. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été exécuté, parce qu'à l'époque les conditions de la clandestinité, c'était pas drôle, hein. S'il y avait un camarade qui flanchait ou qu'on soupçonnait d'avoir causé, il était liquidé, parce que les conditions de la clandestinité étaient telles qu'on pouvait pas se permettre de laisser en liberté quelqu'un qui était aussi dangereux. Mais très vite, le Parti communiste s'aperçut que non, Désiré n'était pas un traître, c'était un bon camarade. Donc ils l'ont réhabilité immédiatement, tout de suite. Et moi, je me souviens avoir été à des commémorations de la résistance. La veuve de Georges Désiré participait à ces manifestations. Et le nom de Georges Désiré figure dans la cour de la Fédération de Rouen du Parti communiste en très bonne place, quoi. C'est-à-dire qu'il a été entièrement réhabilité, etc. Bon, c'est une des tragédies de la résistance, parce que ces gens-là militaient dans des conditions de danger de mort permanent. Enfin, c'était pas drôle, c'était pas la résistance en dentelle, comme on voit dans certains films, etc., où les types se baladent, etc., et où les militaires allemands sont ridicules, etc. Non, là, ils ont affaire à la police française, ils ont affaire à la police allemande, ils ont affaire à des gens extrêmement habiles, très, très intelligents, etc. Et la répression, elle est cruelle, hein, et ça pardonne pas, hein. Alors, c'est pour ça qu'ils s'organisaient en... Dans la direction du Parti communiste, c'était des triangles, hein, généralement. Ils connaissaient deux copains, chacun connaissait deux copains, etc. C'était des triangles, de façon à ce que lorsque quelqu'un était arrêté, tous les autres se mettaient au vert. Tout le monde se planquait, hein, de façon à éviter le démantèlement complet d'une organisation, quoi. Mais malgré ça, la fédération départementale du Parti communiste français a été décapitée deux fois. Hein. Et il y a eu énormément de camarades qui ont été pris. J'ai dû te raconter l'histoire de ce... camarade résistant qui était allé chercher en vélo un pistolet à Rouen pour faire un attentat au Havre. Une fois l'attentat fait, il a ramené le pistolet en vélo et s'est payé les 90 km en vélo pour ramener le pistolet parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas de plastique. Les Anglais le distribuaient avec parcimonie plutôt à la fin de la guerre, quoi. Et pas à tous les réseaux. Certainement, en tout cas, pas au réseau communiste. Hein. Ce qui fait qu'ils avaient peu d'armes. Les armes qu'ils avaient, fallait les récupérer. Tous les fusils de chasse ont été confisqués au début de l'occupation, hein, et il était interdit sous peine de déportation, hein, ou même d'être fusillé, de détenir un fusil de chasse. C'était un délit extrêmement grave. Hein. Donc, quelles armes pouvait-il avoir ? Il fallait faire des attentats pour obtenir des armes et pouvoir à nouveau continuer l'action armée, du moins. Il n'y avait pas que l'action armée, il y avait aussi l'action de distribuer des tracts, distribuer de la presse clandestine, d'abord la fabriquer. Les presses étaient plus disponibles. Les rares imprimeurs qui acceptaient de ce travail-là travaillaient dans des conditions épouvantables. Donc, tout travail de résistance était un travail de danger de mort.
Jean-Paul, t'as sorti aussi une autre fiche, là. Un monsieur Feldman, ouais. Dans metron.fr. Feldman. On arrive sur la fiche de Valentin Feldman. Ouais.
Valentin Feldman, pour qui on peut avoir une grande tendresse, c'était vraiment une tête. Hein. Il est né le 23 juin 1909 à Saint-Pétersbourg, donc, fusillé le 27 juillet 1942 au Mont-Valérien. Il était devenu professeur en Seine-Maritime, hein, et notamment à Fécamp, et puis également à Dieppe. Et c'était un type qui est devenu agrégé de philosophie très jeune. Pour lui, ça s'est terminé assez rapidement. D'abord, il était juif, et donc il ne pouvait plus exercer dans le lycée de Dieppe ou dans le lycée de Fécamp. Évidemment, il rentre dans la résistance parce que c'est un cadre. Avant la guerre, déjà, il est l'un des formateurs intellectuels du Parti communiste en Seine-Maritime. Bon, c'est vraiment un dirigeant du Parti communiste. Alors, sa particularité, c'est d'avoir été donc fusillé au Mont-Valérien, d'avoir dit en allemand, d'avoir dit à ceux qui le fusillaient, « Bande d'imbéciles, c'est pour vous que je meurs. » Voilà. C'est ça qui m'a touché chez Valentin Feldman.
Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera.
Tu peux taper le nom du grand-père d'une copine, Gilbert Séché, qui était un militant communiste déporté de Saint-Pierre-des-Corps.
Ok. Toi, Saint-Pierre-des-Corps, t'as une flopée. Il a été déporté, il n'est pas revenu.
Si.
Il est revenu. Il est probable qu'il n'y soit pas. Parce que là, l'accent, il convient.
Ouais.
Parce que ça arrive assez souvent.
Je vais appeler ma copine.
Salut, c'est JBD, je te dérange ?
Dis-moi.
Je suis avec un copain là qui s'appelle Jean-Paul et qui travaille sur un truc qui s'appelle le Métron, dictionnaire biographique de tous les militants syndicaux et communistes de 1789 à nos jours, avec 250 000 références. Et là, par curiosité, dans le moteur de recherche, je viens de taper Gilbert Séché,
ouais,
qui est bien le nom de ton grand-père.
Oui.
Et ben, il y est pas. Et je me dis, comment ça se fait qu'un mec qui était important quand même dans le PCF, qui s'est évadé d'un train de déportation, qui a ensuite occupé des fonctions au PCF, ne figure pas dans ce truc de référence qu'est le Métron.
Ça s'écrit comment ?
M-A-I-T-R-O-N, consultable en ligne sur donc métron.fr. Donc là, je suis avec mon copain Jean-Paul, qui peut te dire bonjour.
Bonjour, bonjour. Mais
Jean-Paul, est-ce qu'on peut déjà lui donner quelques pistes à Bénédicte de qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour qu'éventuellement, si elle le souhaite, son grand-père Gilbert Séché apparaisse dans le Métron ?
Tous les renseignements que tu as sur ton grand-père sont intéressants. Sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Il est décédé, non ?
Oui, en 95.
Donc il faut aussi la date de son décès et le lieu de son décès. S'il a été déporté, il doit être sur les listes de la déportation.
Il s'est échappé ?
Il s'est échappé, c'est ça le problème.
Oui. Il est allé à Compiègne et il était dans le convoi 22 janvier 44. Ah, bon. Un train où il y a eu pas mal d'évasions. Oui. Et un train qui partait de Compiègne direction Buchenwald. J'ai une cassette audio avec le récit de l'évasion.
En effet.
Et de ce qu'il a pu faire avec d'autres à Saint-Pierre-des-Corps. Et surtout entre distribution de tracts, avec Pierre Dezeuf, qui est un autre personnage important là du coin.
C'est curieux qu'il n'y soit pas.
FTP. Et après la guerre, il a été chargé dans le sud du département de relancer le militantisme communiste. Ensuite, il a été élu à la ville de Saint-Pierre.
Je m'as pas dit, il n'a pas été à Cuba non plus.
Bah, il allait régulièrement à Moscou, à Cuba et en Chine. Il a vraiment parcouru beaucoup de pays de l'Est à cette époque. Et puis après, très engagé dans l'amitié franco-allemande. Également avec des Palestiniens.
Oui, bon, ça fait beaucoup de précisions. Il faut que tu me les communiques. Hein.
Avec plaisir.
Bon, mais je te fais un gros bisou, ma copine. À très bientôt, puis on va s'occuper de Gilbert.
Ciao. Bye.
Ciao.
Alors Jean-Paul, si j'ai un grand-père ou un arrière-grand-père ou un grand-tonton ou une grande-tata résistant, militant, communiste, syndical, qui a eu une action ouvrière, enfin voilà, et dont je pense qu'il ou elle mériterait de figurer dans le Métron, comment je fais ? Je vais sur métron.fr, donc M-A-I-T-R-O-N.fr, et après, il faut cliquer sur l'onglet « Qui sommes-nous ?» contacter l'équipe du Métron. Et on peut déjà rédiger une petite fiche. Alors, tu disais, premières informations, date de naissance, et éventuellement, si la personne est décédée, date donc de décès. Et puis, peut-être les grandes lignes d'un CV, quoi. Engagé à telle organisation, telle année. Enfin bon, voilà, si on a tout ça, on fait un truc un peu synthétique dans un premier temps. Voilà.
En s'inspirant de la méthode du Métron, il faut lire plusieurs notices, et on comprend assez vite quelle est la façon de rédiger une biographie.
Et au pire, on peut être guidé. Si ça convient pas, enfin, vous intervenez en demandant des précisions ou des trucs comme ça.
Oui. Alors, souvent, les gens qui contactent le Métron sont des gens qui découvrent que leurs parents sont dans le Métron. Et ces gens-là apportent au Métron des compléments précieux pour compléter la notice biographique. Et ça se produit très souvent, c'est un événement très agréable, parce que souvent, on arrive à résoudre, à élucider des mystères sur la carrière et sur le déroulement de la vie de telle ou telle personne.
Évidemment, ce sont des générations qui sont en train de disparaître, là, hein, les contemporains. Alors, je pensais surtout à la période de l'occupation et de la résistance. Leur nombre se rétrécit comme peau de chagrin, évidemment, par la force des choses. Mais j'ai eu le plaisir de constater, par exemple, que mon ami Jean Souris, qui était dans les FTP, dans le Limousin, puis après qui a fait une longue carrière syndicale et au PC, et qui est toujours en vie au moment où on se parle, là, 2022, qui va sur ses 94 ans. Mon copain Jean Souris est dans le Métron, alors qu'il est toujours de ce monde.
Tout ne peut pas être dans le Métron. Il y a 250 000 biographies. Bon, il y a encore un travail considérable à faire pour le compléter. Ça, c'est permis par des volontaires qui peuvent s'atteler à fournir des biographies au Métron.
Merci beaucoup, Jean-Paul.
Merci, c'est moi qui te remercie.
Salut, André, à bientôt.
À bientôt, tous.
Et voilà.
Voilà les amis, c'est ici que prend fin cette spéciale Métron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, consultable sur internet métron.fr, métron.fr. Cette émission est en écoute sur notre site internet polymixetlavoixoff.com où il est aussi possible de s'abonner au podcast avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G.